bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Radio Orient et il est midi, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, le Liban continuera à mobiliser tous les efforts politiques et diplomatiques pour parvenir à un retrait israélien global du sud du pays. Nawaf Salam l'a affirmé à Zouatar al-Gharbiya, où l'armée libanaise a commencé à se déployer dans le cadre de l'accord conclu avec Israël. L'armée américaine poursuit sa campagne de frappe contre l'Iran. Elle a visé plusieurs sites, notamment des infrastructures logistiques militaires. Téhéran a activé ses systèmes de défense aérien dans l'ouest, l'est et le nord-est de la capitale. En France, les pompiers sont parvenus à contenir l'incendie qui a parcouru 2550 hectares dans le Var. L'opération mobilise quelques 1100 sapeurs-pompiers et 350 engins. Bonjour. Au Liban, le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé que son pays continuera à mobiliser tous les efforts politiques et diplomatiques pour parvenir à un retrait israélien global du sud du pays. Une déclaration faite depuis Zaoutar al-Gharbiya, où l'armée libanaise a commencé à se déployer dans le cadre de l'accord conclu avec Israël sous l'égide des États-Unis. Sur le terrain, cette première étape reste toutefois fragile. L'armée libanaise accuse les forces israéliennes d'avoir ouvert le feu à proximité de ses unités. Israël affirme de son côté avoir procédé à des tirs de semonce après l'entrée de soldats libanais dans une zone qui ne faisait pas partie, selon lui, du périmètre prévu. L'accord prévoit le déploiement progressif de l'armée libanaise dans des zones pilotes évacuées par Israël sous réserve du désarmement du Hezbollah, qui rejette cet accord et refuse de déposer les armes. Ces développements interviennent au lendemain de la visite du président libanais Joseph Aoun à Washington, la première d'un chef d'État libanais depuis 2009. Reçu à la Maison Blanche, Joseph Aoun a insisté auprès de Donald Trump sur la nécessité d'un retrait total d'Israël du territoire libanais, condition selon lui indispensable au rétablissement de la souveraineté de Paris. Assuré vouloir beaucoup aider le Liban et évoquer des projets concrets pour soutenir l'armée libanaise, le président américain a également annoncé la reprise des vols commerciaux directs entre les États-Unis et le Liban, suspendu depuis plus de 40 ans. Washington continue parallèlement de faire pression sur Beyrouth pour obtenir le désarmement du Hezbollah, tandis que Donald Trump s'est dit prêt, si nécessaire, à discuter avec le mouvement chiite. Dans la région toujours, 12 Palestiniens ont été tués mardi dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, selon la défense civile du territoire. Parmi les victimes figurent 6 membres d'une même famille, dont 4 enfants tués dans leur maison à Gazaville. Et puis la France a livré 21 tonnes d'aide humanitaire à l'Égypte destinée aux hôpitaux qui accueillent des Palestiniens blessés et malades évacués de Gaza. Cette aide complète 16 tonnes de matériel médical déjà acheminé en 2024 et 2025. Paris appelle à un accès massif et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza ainsi qu'au respect du cessez-le-feu. 11e nuit consécutive de bombardements en Iran. Une ultime campagne de frappe menée par l'armée américaine contre des cibles militaires de la République islamique. Toujours un même objectif pour les États-Unis, tenter d'affaiblir Téhéran à tout prix. Même si, Clara Dubanchet, le coût de cette guerre s'envole pour Washington et l'Iran ne semble pas faiblir.
Oui Nadia, il paraît loin le temps de cet accord de cessez-le-feu entre les deux pays, lorsqu'une énième alerte aérienne retentit dans les rues de Téhéran hier dans la nuit. Le président américain Donald Trump vient d'annoncer de nouvelles frappes et avertit les Iraniens, il n'en a pas fini avec la guerre. Pourtant, elle commence à coûter cher à Washington, cette guerre. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a estimé à 37,5 milliards de dollars les dépenses américaines, une hausse de près de 30% par rapport à la dernière estimation. Et le montant ne semble pas s'arrêter là, car Pete Hegseth a défendu devant le Sénat une demande de rallonge budgétaire de 67 milliards de dollars. 104 milliards au total, donc, et deux objectifs, affaiblir la capacité capacité de menace du trafic maritime dans la voie stratégique du détroit d'Ormuz et détruire un complexe nucléaire souterrain secret au centre de l'Iran.
Beaucoup d'investissements donc de la part des États-Unis, mais l'Iran tient bon.
Effectivement, dès l'annonce des frappes, le système de défense antiaérienne a été activé dans plusieurs zones de la capitale. Téhéran n'a pas tardé à riposter aux frappes américaines visant les alliés régionaux des États-Unis en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, continuant aussi à verrouiller le détroit d'Ormuz où plusieurs navires ont été ciblés ces derniers jours. L'avertissement des gardiens de la révolution iranien est clair. Ceux qu'ils considèrent comme l'ennemi, entendons les États-Unis, devra se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes.
Merci Clara pour ces précisions. Les États-Unis devraient annoncer ce mercredi un accord avec l'Arabie Saoudite pour développer un programme nucléaire civil, selon plusieurs médias américains. D'une durée de 30 ans, l'accord pourrait permettre à des entreprises américaines de construire un complexe d'enrichissement d'uranium dans le royaume sous certaines conditions. Direction le Maroc qui demande à l'Italie de faire toute la lumière sur la mort de Abdelrahim Fakir, un Marocain de 42 ans décédé dimanche lors de son arrestation à Bologne. Une enquête vise deux policiers et quatre secouristes présents lors de l'interpellation et une autopsie a été ordonnée. Le drame a provoqué une vive indignation en Italie et plusieurs manifestations, tandis que la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a appelé à rechercher la vérité jusqu'au bout. 6 personnes sont mortes depuis le début de la vague d'incendie qui touche plusieurs régions d'Algérie, selon le ministère de l'Intérieur. Les autorités ont ordonné un recensement des dégâts en vue d'indemniser les sinistrés. D'importants moyens humains, matériels et aériens restent mobilisés pour lutter contre le feu alors que le nord du pays connaît de fortes chaleurs. En France, les pompiers restent pleinement mobilisés dans le Var après avoir parcouru plus de 2500 hectares en moins de 24 heures. Le violent incendie est désormais contenu, mais pas encore maîtrisé. Les autorités craignent une reprise des flammes avec le retour du vent ce jeudi. Le point avec vous, Salma Darlaoui.
Oui Nadia, les pompiers poursuivent leur lutte contre le violent incident qui ravage le centre du Var. Le feu, parti mardi à la mi-journée près de Pontevès, a parcouru 2550 hectares en moins de 24 heures. Selon les secours, l'incendie est désormais contenu dans son périmètre, mais de nombreux foyers restent actifs et la vigilance demeure maximale. Les autorités redoutent notamment le retour d'un vent soutenu attendu jeudi qui pourrait favoriser une reprise des flammes. Environ 500 personnes ont été évacuées dans les communes de Cotignac, Coran et Montfort-sur-Argent. Entre 30 et 40 habitations ont été endommagées, mais plusieurs centaines d'autres ont pu être protégées. Les deux sites religieux de Cotignac, le sanctuaire Notre-Dame et le monastère Saint-Joseph, ont également été épargnés. Aucune victime n'est à déplorer, hormis quelques intoxications par les fumées. Au total, 1100 sapeurs-pompiers appuyés par 350 engins, des hélicoptères bombardiers d'eau ainsi que deux canadaires et deux avions Dash restent mobilisés sur le terrain. Leur objectif est de fixer définitivement l'incendie avant le renforcement du vent annoncé dans les prochaines heures. Depuis le début de l'année, près de 40 000 hectares sont partis en fumée en France, soit beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé l'année dernière, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Une saison des feux particulièrement précoce, favorisée par la sécheresse et les fortes chaleurs.
Merci Salma pour ces précisions. Et je rappelle qu'hier, deux sapeurs-pompiers sont morts lors d'une intervention contre un incendie désormais fixé survenu mardi après-midi près de l'aéroport de Bordeaux. Leur camion a été piégé par les flammes. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu à Mérignac ce mercredi pour rendre hommage aux disparus et soutenir leurs familles et collègues. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbuche, a fait savoir qu'elle présentera sa démission ce mercredi à Emmanuel Macron. Elle dénonce le recul environnemental de trop après l'adoption définitive d'une mesure permettant, sous condition, la réintroduction de certains pesticides interdits en France. Monique Barbuche reproche notamment au gouvernement d'avoir empêché le débat sur la suppression de cette disposition. Aurore Berger annonce qu'elle travaillera tout l'été à la préparation d'une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants avec un examen prévu début octobre à l'Assemblée. Le texte doit mobiliser l'ensemble de la société au-delà des seules réponses policières et judiciaires. La ministre qui s'exprimait ce matin chez nos confrères de TF1 souhaite également créer des juridictions spécialisées dans les violences sexuelles et sexistes. On l'écoute.
Loi intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste police-justice, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui doit se mettre en mouvement pour garantir la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et faites aux enfants, à la fois sur la santé, sur l'éducation, sur comment justement on repère, on détecte, on accompagne les victimes. Et on va, dès la semaine prochaine, revoir les parlementaires. Je les recevrai jeudi prochain pour travailler à l'écriture de ce texte. Examen, en effet, dès début octobre, dès le retour, en fait, des travaux à l'Assemblée nationale. Ce que ça doit changer, c'est ça. C'est un changement profond. Fond de culture. C'est sans doute créer des juridictions spécialisées. On y travaille avec le garde des Sceaux parce qu'il y a aussi cette demande qui est très forte de spécialisation de la justice sur la question des violences sexuelles faites aux femmes et faites aux enfants, parce que malheureusement c'est une matière à part, parce que c'est un contentieux de masse. On parle de 160 000 enfants chaque année qui seraient victimes de violences sexuelles. C'est d'abord dans la famille que ça se passe, ou avec des personnes en qui nos enfants ont confiance, qui ont autorité sur nos enfants. C'est tout le sujet du périscolaire qui s'est passé à Paris, mais sans doute pas qu'à Paris. On a mis du temps, sans doute trop de temps collectivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que je vienne sur un plateau de télévision pour rappeler que le fléau des violences sexuelles, c'est d'abord, encore une fois, ce qui se passe dans nos foyers. Le lieu qui devrait être le plus protecteur peut aussi être le lieu qui est le plus destructeur quand on parle de l'inceste. C'est une réalité qui est très difficile à affronter, mais qui est nécessaire pour détecter le plus tôt possible et pour accompagner ces victimes.
Aurore Berger chez nos confrères de TF1. Une enquête est ouverte sur le suicide d'un jeune homme victime de racisme. Selon ses proches, sa famille affirme qu'il avait subi des années de harcèlement raciste. Le corps du jeune homme de 21 ans avait été retrouvé il y a une semaine dans le village de Châtonnet, dans le département de l'Isère. Un drame qui suscite l'indignation de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, la députée Anne Genetley.
Alors le message, c'est d'abord évidemment beaucoup de tristesse et une infinie compassion pour la famille de ce jeune et puis ses proches. Et d'une manière générale, l'ensemble de notre jeunesse qui voit ça, qui forcément doit s'interroger en disant « Mais est-ce que moi, ça va m'arriver un jour ou pas ?» Et je veux pouvoir lui dire « Mais non, ça ne t'arrivera pas. Non, ça ne t'arrivera pas. Parce que je suis là, moi, pour te protéger, que je m'appelle l'école, que je m'appelle la justice, la police, la famille, l'environnement, la commune, je ne sais pas. » C'est la République française qui doit être là pour te protéger. C'est la promesse républicaine que je veux pouvoir tenir et dont je vois bien, hélas, parfois, qu'elle n'a pas toujours été au rendez-vous et qu'elle fait douter certains de nos concitoyens. Je ne peux pas accepter qu'elle puisse faire douter de notre jeunesse. Ça n'est pas possible. Donc oui, c'est tout cela sur lequel il faut travailler. Moi, j'ai infiniment foi en l'être humain et je veux croire que c'est possible et je veux croire en la raison de nos concitoyens qui doivent entendre que tout comportement, tout propos antisémite, raciste, discriminant n'a pas sa place et que la personne qui les profère ne peut pas être en responsabilité d'aucune manière, notamment en étant élu. C'est ça aussi la promesse républicaine et que je veux que notre jeunesse puisse entendre et qu'elle puisse le croire et en être convaincue.
Justement, Anne Genetley, vous citez cette promesse républicaine. Estimez-vous que cette promesse républicaine serait mise en danger en cas de victoire de l'un ou l'une des extrêmes lors de la présidentielle, que ce soit extrême droite ou extrême gauche?
Très clairement, je vais commencer par l'extrême gauche, bien évidemment. C'est d'ailleurs des militants d'extrême gauche qui sont à l'origine de l'interruption de ce concert qui était donné par une personnalité, Barbara Bush, de confession juive. Donc évidemment, ils flirtent en permanence avec des propos antisémites. Ils se mettent toujours sur une crête pour se débrouiller, pour l'air de dire non, mais pas du tout, je ne suis pas antisémite. Mais ils sont profondément antisémites dans leur comportement, dans leurs propos. Et il faut se dire qu'ils rejettent une partie de la population et que des gens comme ça au pouvoir rejetteraient une partie de notre communauté française, de notre communauté nationale. C'est inacceptable. Quant à l'extrême droite, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ils travaillent aussi, leur message travaille sur la haine et le rejet des autres, notamment sur le rejet de la communauté musulmane, ce qui est totalement inacceptable. N'oublions pas aussi qu'en leur sein, il y a un certain nombre de personnes qui sont profondément antisémites et que régulièrement ils font du ménage chez eux, mais enfin ça ressort en permanence. Ils sont très souvent liés à des groupuscules affiliés qui ont eux-mêmes des propos et des comportements qui frisent ou qui sont carrément profondément antisémites. Donc oui, nous avons là deux extrêmes qui en tout cas ont des propos ou une idéologie qui veut séparer la société française, isoler un certain nombre de ses composants pour ne pas leur donner les mêmes droits qu'aux autres. C'est ça la réalité de l'extrême gauche d'un côté ou de l'extrême droite de l'autre.
L'ex-ministre de l'Éducation nationale, la députée Anne Genetet, elle sera l'invitée de Pluriel ce soir à 19h, émission présentée par François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et merci à Mohamed Al-Bezeri pour la mise en onde. On se retrouve dans un peu moins de 45 minutes pour un point de l'actualité. Excellente écoute sur Radio Orient.